Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Augustin, bonjour.
Bonjour David, bonjour à tous.
Une bonne nouvelle ce matin dans les journaux, la France attire.
L'information est en une de plusieurs quotidiens, dont le cahier Saumon du Figaro. La France reste championne d'Europe de l'attractivité pour la 5e année consécutive. Résultat du baromètre annuel établi par le cabinet de conseil EY, cocorico de rigueur, près de 1200 investissements étrangers ont été recensés l'année dernière, plus qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. L'opinion souligne que presque un projet sur deux concerne l'industrie, ce qui fait dire à EY que la réindustrialisation est en marge dans le pays. Pour la plupart localisés dans les villes moyennes, ces projets bénéficient à des bassins en difficulté où les taux de chômage sont plus élevés, mais où il existe un savoir-faire indéniable. Le Figaro souligne que cette première place, selon l'étude, est due aux vagues successives de réformes qui se sont accélérées ces 10 dernières années. Réforme du Code du travail, baisse des impôts de production, loi Pacte, plan France Relance et plan France 2030. Satisfait site de l'Élysée qui voit donc la validation de sa politique.
Mais il y a un mais.
Et oui, qui barre en gros la une des échos. La France reste un leader fragile, car si nous sommes premiers, il y a tout de même eu 5% de moins de projets en moins l'année dernière qu'en 2022, et les deux tiers sont des extensions de sites plutôt que des installations. L'Hexagone fidélise, souligne le quotidien économique, mais peine à faire venir de nouveaux investisseurs. Les entreprises étrangères pointent toujours un déficit de compétitivité persistant, les effets négatifs du climat social et un accès au financement complexe, une forme d'alerte pour l'avenir, conclut le Figaro.
Alors, il y a la France économiquement attractive et puis il y a la France qui espère faire rêver le monde avec les Jeux Olympiques. Focus sur les préparatifs.
Côté infrastructure, d'abord, c'est aujourd'hui que doit être inauguré le bassin d'Austerlitz, peut-on lire dans les Échos et le Parisien, qui publie la photo d'une immense cuve grise sous terre avec de grands piliers. Près de 50 000 mètres cubes d'eau, l'équivalent de 20 piscines olympiques, vont pouvoir y être stockées. Ce bassin doit donc tout changer. Il est crucial, renchérissent les Échos, crucial pour remédier à l'un des problèmes structurels de pollution de la Seine, la saturation du réseau quand il pleut trop. Bon, in fine, tout dépendra de la météo, mais cette nouvelle étape nous rapproche un peu plus de la possibilité de se baigner dans la Seine. La baignade dans le fleuve, c'est ce qui restera de ces JO dans 30 ans. Marc Guillaume, le préfet d'Île-de-France, en est convaincu. Libération a pu assister à une réunion hebdomadaire de préparation. 37 points à l'ordre du jour, comme le recyclage des 30 000 oreillers du village olympique qui pourraient être donnés à Emmaüs. Beaucoup de détails à régler encore, mais de l'optimisme, il n'y a aucun sujet sur lequel on ne sera pas prêt.
Certains, en revanche, risquent de ne pas être prêts. Ce sont les athlètes qui se blessent.
Et oui, la Croix consacre une double page à ce risque. Certes, la blessure fait partie du quotidien des sportifs, mais l'approche des Jeux renforce l'appréhension chez certains. Encore plus pour les Français qui sont à la maison, ça peut générer une pression supplémentaire. Et cette crainte devient parfois un véritable handicap, hein, surtout pour ceux dont la qualification ou la sélection n'est pas encore acquise, relate le journal. Cercle vicieux, cette préoccupation peut amplifier la probabilité de se blesser. Mais les sportifs ont heureusement des préparateurs mentaux pour diminuer ces pensées parasites. Si malgré tout ils se blessent, ce n'est pas forcément la fin du rêve. Le second article du dossier est consacré à ces athlètes amoindris qui feront les Jeux coûte que coûte. Et il faut le dire, qui forcent l'admiration. Le 2 mars dernier, la perchiste française Margot Chevrier se fracture la cheville. Une blessure pareille, c'est 0% de chance de participer, constate-t-elle alors, avant d'ajouter « pour quelqu'un de classique ». Car la réalité du blessé lambda n'est pas celle de l'athlète de haut niveau. Margot Chevrier a entamé des séances intensives de kiné avec un objectif, sauter cet été au Stade de France. Et comme d'autres avant elle, elle pourra compter sur des infiltrations, de quoi calmer la douleur pendant un laps de temps, à ne pas confondre avec les produits dopants. Pour la première fois, les corticoïdes seront interdits pendant les Jeux, mais les règles n'empêchent pas d'en recevoir avant. Un pansement temporaire qui n'est pas sans risque, mais pour certains, pas question de manquer le rêve d'une vie.
Ça force l'admiration, contrairement à d'autres qui obtiennent des récompenses. Malgré de mauvaises performances, le Figaro s'arrête ce matin sur le bidouillage des diplômes en France.
Bac, brevet ou CAP, on entend parfois aujourd'hui que ces diplômes sont donnés à tout le monde. Eh bien, si l'on en croit le journal, c'est pas si éloigné de la réalité. La hausse du taux de réussite depuis 30 ans serait plutôt liée à des manipulations d'arrière-cuisine qu'à une augmentation de l'intelligence collective de nos enfants. Ces pratiques sont déplorées par Gabriel Attal, qui souhaite y mettre fin cette année. Le Premier ministre prévient donc que le taux de réussite au brevet va baisser de manière importante. En 90, 7 jeunes sur 10 environ décrochaient le diplôme. Aujourd'hui, c'est presque 9 sur 10. Et ça, c'est grâce à la magie de ce qu'on appelle les correctifs académiques. Si l'on constate que le résultat d'une académie varie trop par rapport à ceux de l'année précédente, on ajoute des points à tout le monde, c'est gratuit, c'est cadeau. Et ça donne par exemple un collège de Nanterre où plus de 93% des collégiens ont obtenu le diplôme alors que la moyenne à l'écrit était de 7,7 sur 20, cherchez l'erreur. Même chose plus rarement pour le bac où les correcteurs doivent rééquilibrer les notes des épreuves de spécialité. Et derrière se cache un des mots-clés de notre époque, David, la bienveillance. Mmh. On devine tout ce que ça sous-entend, la volonté de ne pas pénaliser, de protéger. Mais attention, ça cache aussi des réalités politiques. Et si le ministère encourageait jusqu'à présent ces pratiques, c'est aussi parce que l'augmentation des résultats du bac s'était vue comme une validation des réformes entreprises. Et puis certaines réformes ont aussi été faites pour pouvoir se passer des correcteurs en faisant passer les épreuves par les professeurs des candidats.
Cette recherche d'économie dans l'éducation nationale va parfois très loin.
À tel point que le ministère a dû publier un communiqué hier, 1er mai, pour revenir sur une décision qui avait commencé à être mise en application au début de la semaine dans les établissements, la suppression des heures supplémentaires. L'éducation nationale doit trouver presque 700 millions d'euros d'économies sur les 10 milliards nécessaires cette année pour corriger le dérapage du déficit. Le Monde raconte donc comment, à 2 mois des vacances, il a été décidé de se passer des aides aux devoirs, des remplacements de courte durée ou des sorties culturelles. Colère du monde éducatif, le gouvernement a fait machine arrière. Alors j'ai peut-être eu un bac au rabais il y a quelques années, mais si l'on veut que les résultats du bac et du brevet augmentent sans tricher, donner des moyens à l'éducation nationale, eh bien ça semble être une piste intéressante. Mais bon, ça coûte plus cher que la bienveillance.
Augustin Lefebvre et sa revue de presse. Vous revenez demain grâce à votre mérite, et uniquement votre mérite, et pas grâce à la péréquation que vous avez décrite dans la revue de presse. Dans un instant, Franz-Olivier Gisbert, et dans la place, c'est notre esprit libre du jeudi, Radio Classique, 8h30.